plus, je trouve qu'il y a une chose extraordinaire chez Cavafy. Je dirais que de tous les auteurs grecs, parce qu'on a eu très peu de romanciers quand même.
Vassili Alexakis.
C'est Cavafy qui m'a le plus marqué en tant que romancier, je dirais, parce que ses poèmes ont un scénario, ils racontent une histoire. Donc ce sont des poèmes qu'on peut raconter même si on ne s'en souvient pas.
Ça peut pas faire de mal.
Et puis un jour, j'ai pensé que les poèmes de Cavafy sont au fond des quatrièmes de couverture, des résumés parfaits, d'un livre qui n'existe pas et qui n'a pas été nécessaire de l'écrire, puisque le résumé est si parfait. Donc Cavafy, on peut dire qu'il a écrit 150 petits romans.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Quand tu prendras le chemin d'Ithaque, souhaite que la route soit longue, pleine d'aventures, pleine d'enseignements. Et les strigons et les cyclopes, ne les crains pas, ni la colère de Poséidon. Jamais tu ne trouveras rien de tel sur ton chemin si ta pensée reste élevée, si une émotion rare étreint ton esprit et ton corps. Les lestrigons et les cyclopes, tu ne les rencontreras pas, ni l'irascible Poséidon, si tu ne les transportes pas dans ton âme, si ton âme ne les fait pas surgir devant toi. Souhaite que la route soit longue, que nombreux soient les matins d'été, où, avec quel plaisir et quelle joie, tu découvriras des ports que tu n'as jamais vus. Arrête-toi dans les comptoirs phéniciens pour te procurer de précieuses marchandises. Ambre, corail, ébène, nacre et capiteux parfums de toutes sortes, le plus que tu pourras de capiteux parfums. Visite aussi beaucoup de villes égyptiennes et n'aie de cesse de t'instruire auprès de ceux qui savent. Garde toujours Ithaque présente à ton esprit. Y parvenir est ta destination finale, mais ne te hâte surtout pas dans ton voyage. Mieux vaut le prolonger pendant des années et n'aborder dans l'île que dans ta vieillesse. Riche de ce que tu auras gagné en chemin, sans attendre d'Ithaque aucun autre bienfait. Ithaque t'a offert ce beau voyage. Sans elle, tu n'aurais pas pris la route. Elle n'a rien de plus à t'apporter. Et même si elle est pauvre, Ithaque ne t'a pas trompé. Sage comme tu l'es, avec une expérience pareille, tu as sûrement déjà compris ce que les Ithaques signifient. Ce poème intitulé « Ithaque », on le doit à l'une des plus belles plumes grecques du XXe siècle, celle de Constantin Cavafis. Quand il écrit en 1911 cette magnifique invitation au voyage, le poète a 48 ans. Et cette année marque pour lui le début de sa maturité poétique. Mais chose étonnante, cet auteur qui parle si bien du voyage n'a rien d'un grand nomade. Il est né à Alexandrie en 1863, il y est mort 70 ans plus tard en 1933 et il y a vécu l'essentiel de sa vie. C'est là sans doute la magie de la poésie. En apparence, Constantin Cavafis présente une biographie sans grand relief, celle d'un grec aisé, issu d'une famille commerçante dans l'Alexandrie cosmopolite d'alors et qui occupe pendant 30 ans un même poste au service de l'irrigation. Il faut lire les poèmes de Cavafis pour découvrir ce qu'une biographie officielle laisse de côté. On y rencontre un passionné d'histoire, amoureux de la langue grecque. Un homme qui se trouble devant la beauté d'un jeune garçon et tente, sans relâche, de sauver les émotions de l'oubli. « Il faudra attendre que je sois complètement démodé pour me découvrir vraiment », écrivait Cavafis. Et comme pour retarder cette découverte, le poète, de son vivant, a dispersé ses mots à tous les vents. Ses poèmes, écrits sur des feuilles volantes, étaient volontiers distribués aux amis et aux disciples. Ce n'est donc qu'après sa mort qu'on a pu reconstituer l'œuvre de Cavafis. Moins de 200 poèmes, plutôt courts, qui redonnent vie aux oubliés de l'histoire et aux émois secrets. Découvrons donc ce soir la poésie si singulière de ce grec d'Alexandrie, mémoire vivante de sa ville. Nous emprunterons la traduction de Dominique Grandmont, parue aux éditions Gallimard. Pénétrons dans l'univers de Cavafis avec ses poèmes de jeunesse. Un mot d'abord sur l'enfance. Cadet d'une grande fratrie, Constantin Cavafis grandit au sein d'une famille grecque établie à Alexandrie. Il faut s'imaginer une ville fascinante, bouillonnante d'activités où se croisent toutes les nationalités. La jeunesse du poète est marquée par les séjours à l'étranger, plusieurs années en Angleterre d'abord, d'où il revient parfaitement bilingue. Puis, suite aux troubles politiques qui agitent l'Égypte, un nouvel exil de 3 ans à Constantinople. Cavafis a donc 23 ans quand il retrouve sa ville natale. À l'exception de quelques courts voyages, il ne la quittera plus. Âgé d'à peine 30 ans, Cavafis traduit en grec les correspondances, ce sonnet de Baudelaire paru dans le recueil des Fleurs du Mal. Et l'influence du maître parisien reste sensible dans les premiers poèmes de Cavafis, qui expriment l'ennui et l'insatisfaction. Découvrons d'abord dans cette veine deux très courts poèmes qui semblent se répondre. Cavafis les jugeait inachevés, ne les a jamais rendus publics. Commençons par « Trouble », un poème écrit en mars 1896. Mon âme au milieu de la nuit est confuse et défaite. C'est dehors, en dehors d'elle, que se déroule sa vie. Et elle attend l'aube improbable. Et je muse à attendre et je m'ennuie aussi, en elle ou avec elle. Un an après, en février 1897, Cavafis écrit « L'impossible ». Avec ce deuxième poème, il semble une nouvelle fois nous dire que la vraie vie est ailleurs. Il existe une joie, mais elle est bénie. Une consolation jusque dans ce malheur, c'est que la fin nous délivre de tout ce fatras, de journées insipides et triviales. Un poète a dit « La musique la plus douce est celle qu'on ne peut pas entendre, et moi je crois que la vie la meilleure est celle qu'on ne peut pas vivre. » À la même époque, pour rendre compte de ce quotidien étriqué, Cavafis introduit dans ses poèmes un autre motif, celui de l'enfermement. Dans « Mur », composé en 1896, voici le poète condamné à l'impuissance, prisonnier d'une volonté arbitraire. Sans égard, sans pitié, sans scrupule, ils ont élevé de hautes murailles autour de moi. Et maintenant, je ne fais rien ici que me désespérer. D'un tel destin, la pensée m'obsède et me ronge. Car j'avais beaucoup de choses à faire dehors, pendant qu'on bâtissait les murs. Ah, que n'ai-je pris garde ! Mais jamais je n'ai entendu le bruit des maçons, ni leur voix. C'est à mon insu qu'ils m'ont enfermé hors du monde. Comme pour échapper à ces murs oppressants, Cavafis effectue plusieurs voyages à cette période. Paris, Londres et Athènes, la ville des origines. Une belle esquisse de jeunesse, écrite en 1894, résonne avec ses allers-retours. Dans une autre odyssée, Cavafis s'empare déjà de la figure d'Ulysse que l'on retrouve dans Ithaque. Mais c'est très librement que le jeune poète revisite le mythe. Sous sa plume, Ulysse, rentré au port, ne rêve que d'une chose, remettre les voiles. Une autre grande odyssée, plus grande que la première peut-être, mais hélas, sans Homère, sans hexamètre. Elle était petite, la demeure paternelle, petite, sa ville natale, et son Ithaque tout entière était petite. L'affection de Télémaque, la fidélité de Pénélope, la vieillesse du père, ses amis d'autrefois, l'amour et le dévouement du peuple, le confort tranquille de la maison sont entrés tels des rayons de joie dans le cœur du navigateur. Puis, tels des rayons, ils ont décliné. La soif du large s'est réveillée en lui. Il détestait les vents de terre. Les fantômes de l'Hespérie revenaient la nuit troubler son sommeil. Il se laissait envahir par la nostalgie des voyages et des arrivées matinales dans des ports où l'on se fait une joie de pénétrer pour la première fois. L'affection de Télémaque, la fidélité de Pénélope, la vieillesse du père, ses amis d'autrefois, l'amour et le dévouement du peuple, la sécurité même et le confort de la maison, il en a eu assez. Alors il est parti. Tandis que les côtes d'Ithaque s'estompaient peu à peu devant ses yeux et qu'il mettait pleine voile vers le couchant, vers le pays des Ibères, les colonnes d'Hercule, loin des eaux achéennes, il se sentit revivre en rejetant ainsi ses liens devenus insupportables du ménage et la routine des affaires courantes. Et son cœur d'aventurier en éprouvait une jouissance froide, dépourvue d'amour. Le poète serait-il cet Ulysse, enchaîné malgré lui à la terre retrouvée ? En 1910, Cavafis écrit un magnifique poème, « La ville », qui semble répondre à 15 ans d'intervalle à cette autre odyssée. Cette fois, le poète met en scène deux personnages, l'un qui, comme cet Ulysse, comme les voyageurs de Baudelaire, espère diluer son désarroi dans de nouveaux paysages, et l'autre qui l'en dissuade d'une parole implacable. Tu as dit « J'irai par une autre terre, j'irai par une autre mer. Il se trouvera bien une autre ville, meilleure que celle-ci. Chaque effort que je fais est condamné d'avance, et mon cœur, tel un mort, y gît enseveli. Jusqu'à quand mon esprit va-t-il endurer ce marasme ? Où que mes yeux se tournent, où que se pose mon regard, je vois se profiler ici les noirs décombres de ma vie, dont après tant d'années je n'ai fait que ruine et gâchis. Tu ne trouveras pas d'autre lieu, tu ne trouveras pas d'autre mer. La ville te suivra partout, tu traîneras dans les mêmes rues et tu vieilliras dans les mêmes quartiers. C'est dans ces mêmes maisons que blanchiront tes cheveux. Toujours à cette ville tu aboutiras, et pour ailleurs n'y compte pas. Il n'y a plus pour toi ni chemin ni navire, pas d'autre vie. En la ruinant ici, dans ce coin perdu, tu l'as gâchée sur toute la terre.
Si tan solo tuviera cerca de mí, cerca de mí, su caricia, como a la tierra, el aire se la da. La realidad de su persona me haría más alegre. Alejaría del sentido que me llena de gris, nada ya sería. Tan hondo, tan hondo, tan final. Nada ya sería en mí tan hondo, tan hondo, tan hondo, tan
ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Tout se passe comme si le poète avait suivi sa propre prophétie et s'était résigné à sa vie sédentaire. Après la rédaction de ce poème, en effet, Cavafis ne s'éloignera plus guère d'Alexandrie, hormis pour de rares voyages de santé. Mais s'il demeure immobile dans l'espace, le voici qui s'échappe dans le temps. Cavafis disait de lui-même, je le cite, « La plupart des poètes sont exclusivement poètes. Moi, je suis un historien poète. Je suis incapable d'écrire des romans ou d'écrire pour le théâtre, mais des voix intérieures me disent que la tâche de l'historien est à ma portée. » Abordons désormais l'un des aspects les plus remarquables de l'œuvre de Cavafis et réveillons avec lui les oubliés de l'histoire. Commençons avec l'un des textes les plus fameux de l'historien poète, daté de 1904, « En attendant les barbares ». Pour mieux apprécier ce poème et son titre, souvenons-nous qu'au moment où Cavafis le compose, Alexandrie est une ville-monde où se côtoient toutes les nationalités. Et c'est justement notre rapport à l'étranger qu'interroge le grec d'Alexandrie dans ce dialogue, en rendant palpable la tension qui précède l'invasion. Pourquoi nous être ainsi rassemblés sur la place ? Il paraît que les barbares doivent arriver aujourd'hui. Et pourquoi le Sénat ne fait-il donc rien? Qu'attendent les sénateurs pour édicter des lois? C'est que les barbares doivent arriver aujourd'hui. Quelles lois pourraient bien faire les sénateurs? Les barbares, quand ils seront là, dicteront les lois. Pourquoi notre empereur s'est-il si tôt levé et s'est-il installé aux portes de la ville, sur son trône en grande pompe et ceint de sa couronne? C'est que les barbares doivent arriver aujourd'hui et l'empereur attend leur chef pour le recevoir. Il a même préparé un parchemin à lui remettre où il le gratifie de maints titres et appellations. Pourquoi nos deux consuls et les prêteurs arborent-ils aujourd'hui les chamarrures de leurs toges pourpres? Pourquoi ont-ils mis des bracelets tout incrustés d'améthystes et des bagues aux superbes émeraudes taillées? Pourquoi prendre aujourd'hui leurs cannes de cérémonie aux magnifiques ciselures d'or et d'argent? C'est que les barbares doivent arriver aujourd'hui et de pareilles choses éblouissent les barbares. Et pourquoi nos dignes rhéteurs ne viennent-ils pas, comme d'habitude, faire des commentaires, donner leur point de vue? C'est que les barbares doivent arriver aujourd'hui. Et ils n'ont aucun goût pour les belles phrases et les discours. D'où vient tout à coup cette inquiétude et cette confusion, les visages comme ils sont devenus graves? Pourquoi les rues et les places se vident-elles si vite et tous rentrent-ils chez eux, l'air soucieux? C'est que la nuit tombe et que les barbares ne sont pas arrivés. Certains, même de retour des frontières, assurent qu'il n'y a plus de barbares. Et maintenant, qu'allons-nous devenir sans barbares? Ces gens-là, en un sens, apportaient une solution.
Une grande partie de son œuvre repose sur des poèmes à caractère historique, c'est-à-dire dont le fond ou l'inspiration repose sur des inscriptions, des épitaphes, des fragments de chroniques appartenant à des temps anciens.
Jacques Lacarrière.
Et c'est assez extraordinaire parce que on se trouve devant une chose étrange. Chaque fois qu'on traduit phrase par phrase ce poète, on a le sentiment qu'on traduit des articles de journaux, c'est-à-dire qu'on traduit un matériau entièrement non poétique. Un savoir, une connaissance... reposant sur des archives, comme s'il prenait ses sujets dans des archives. Il feuillette des documents poussiéreux, et là il tombe sur un fait, un personnage, qu'il intègre à son poème. Mais bien sûr, il l'apprend presque tel quel, dans sa rédaction en prose. Et ensuite, à partir de ces différentes citations, eh bien on s'aperçoit au terme de la traduction qu'il a bien écrit un poème.
Quelques années plus tard, en 1911, Cavafis explore à nouveau cette tension qui précède la chute. Après le désarroi collectif, le poète s'intéresse cette fois au drame d'un seul homme. Dans un poème, au titre explicite « Antoine, abandonné de Dieu », il nous montre un individu puissant sur le point de tout perdre. Rappelons brièvement les faits historiques dont s'inspire Cavafis. Nous sommes en l'an 30 avant Jésus-Christ, au terme de la Deuxième Guerre civile romaine. Antoine, l'héritier de César, se trouve alors à Alexandrie, assiégé par les troupes d'Octave. La nuit est venue, le voici qui contemple une dernière fois la ville qu'il va perdre. C'est alors qu'une étrange troupe de musiciens traverse la ville pour rejoindre le camp ennemi. Quand soudain, aux environs de minuit, tu entendras passer un cortège invisible, avec des mélodies sublimes ponctuées de clameurs, alors sur ta fortune qui chancelle, sur tes œuvres qui ont échoué, les projets de ta vie qui tous se sont révélés n'être que chimères, ne te lamente pas en vain. En homme prêt depuis longtemps, en homme courageux, une dernière fois, salue Alexandrie qui s'éloigne. Surtout ne t'abuse pas, ne t'en va point dire que ce n'était qu'un rêve, que ton oreille s'est méprise, à d'autres d'aussi sottes espérances. En homme prêt depuis longtemps, en homme courageux, comme il convient à qui pareille cité s'est livrée, approche-toi résolument de la fenêtre, et avec émotion, certes, mais sans les plaintes et supplications des lâches, écoute, dans une ultime jouissance, les sons inouïs, les si doux instruments du mystérieux cortège, et salue-là cette Alexandrie que tu perds. Ce qu'exprime Cavafis dans ses poèmes, c'est bien une vision sensible et vivante de l'histoire, et tout particulièrement des vaincus et des oubliés. Restons à Alexandrie, en cette période sombre de l'an 30 avant Jésus-Christ. Dans un poème composé en 1918, Cavafis rend hommage à une autre victime d'Octave, Césarion, le fils de Jules César et de Cléopâtre, tué dans sa 18e année. Et de même qu'il a rendu vie à Antoine, Cavafis semble recréer devant lui la silhouette de l'adolescent. Dans ce poème, Césarion, il profite des flous de l'histoire pour rêver le jeune homme à sa guise. En partie pour vérifier une date, en partie aussi pour passer le temps, j'ai pris en main pour le feuilleter la nuit dernière un recueil d'inscriptions des Ptolémées. La profusion des louanges et des flatteries est la même pour tous. Ils sont tous magnifiques, couverts de gloire, puissants et charitables. La moindre de leurs entreprises est le comble de la sagesse. Quant aux femmes de la lignée, elles sont sans exception les Bérénices aussi bien que les Cléopâtre, admirables. Quand je me fus renseigné sur la date, j'allais abandonner le livre si une brève mention, au reste insignifiante, du roi Césarion n'avait aussitôt retenu mon attention. Alors te voici, avec ton charme indéfinissable. C'est à peine si l'histoire te consacre quelques lignes, et de ce fait, j'ai eu tout le loisir de t'inventer à mon idée. Je t'ai voulu beau et touchant. À l'immédiate séduction de ton visage, mon art ajoute la perfection du rêve. Et je t'ai imaginé avec une précision si complète qu'hier, tard dans la nuit, au moment où ma lampe allait s'éteindre, je l'ai laissée s'éteindre exprès, j'ai cru que tu étais entré dans ma chambre. Il m'a semblé que tu t'arrêtais devant moi, à peu près tel que tu étais dans Alexandrie conquise, pâle et fatigué, désincarné dans la douleur, espérant encore qu'ils auraient pitié de toi, les fourbes qui brocardaient le pluricésarisme. Césarion nous met sur la piste. Si Cavafis connaît sur le bout des doigts son histoire antique, c'est une histoire incarnée qu'il nous raconte, pleine d'émoi et de désir. En 1926, le poète pousse l'audace un peu plus loin en prêtant sa voix à un jeune homosexuel de l'Antiquité. Quitté par un compagnon cupide, le narrateur de ce poème trompe son chagrin dans des lieux interlopes. Mettons le cap sur Beyrouth, l'actuelle ville de Beyrouth, et allons-nous perdre avec lui dans les tavernes louches. Dans les tavernes louches et dans les lupanards, de Beyrouth je me vautre. Pas question pour moi de rester à Alexandrie. Thamydès m'a quitté pour le fils du sous-préfet, afin de disposer d'une villa sur le Nil et d'un palais en ville. Impossible pour moi de rester à Alexandrie. Dans les tavernes louches et dans les lupanards, de Beyrouth je me vautre. Dans la débauche crasse, je mène une vie abjecte. La seule chose qui me sauve, comme un reste de beauté, comme un lointain parfum qui flotterait sur ma chair, c'est que pendant 2 ans, Thamydès a été pour moi seul, l'ami le plus intime, et non pour obtenir pignon sur rue ou pour une villa sur le Nil. Restons dans les milieux clandestins et rencontrons un autre chantre des amours interdites. Avec son poème « Théâtre de Sidon », 400 ans après Jésus-Christ, composé en 1923, Cavafis remonte à nouveau le temps. Nous voici donc à Sidon, l'actuelle ville de Saïda, où les gardiens du christianisme contrôlent le théâtre et la poésie. Dans ce contexte, écoutons ce jeune poète qui brave la censure des moines intégristes. Fils d'un citoyen honorable, mais surtout au théâtre, jeune premier d'un physique agréable sous tout rapport, il m'arrive de composer, dans un grec impeccable, des vers plus qu'audacieux que je fais circuler sous le manteau, sentant Dieu, pourvu qu'ils échappent aux porteurs de soutane qui n'ont que la morale à la bouche, des vers d'une volupté sans égale qui mènent droit à des amours stériles et méritant réprobation.
Patinait merveilleusement, s'élançant impétueusement, arrivant si joliment, vraiment. Fin comme une grande jeune fille, brillant, vif et fort, telle une aiguille, la souplesse et l'élan d'une anguille. Des jeux d'optique prestigieux, un tourment délicieux des yeux, un éclair qui serait gracieux. Par Parfois il restait comme invisible, vitesse en route vers une cible, si lointaine elle-même invisible. Invisible de même aujourd'hui, que sera-t-il advenu de lui? Que sera-t-il advenu de lui?
Toute l'œuvre du poète, qu'elle se déroule dans l'Antiquité ou dans l'espace quotidien, est traversée par le désir, et précisément le désir clandestin. Car, comme le rappelle l'écrivain Jacques Lacarrière dans son dictionnaire amoureux de la Grèce, je le cite, « Cavafis était homosexuel en un temps où cela passait aux yeux de tous, même à Alexandrie, pour une déviation, voire une tare. Le poète vécut cette situation des années durant avec douleur, mais aussi avec extase, au cours des heures secrètes de sa vie. » Ces heures secrètes, Cavafis leur redonne vie par les mots. Dans un court poème de 1921 intitulé « Mon apport à l'art », il révèle comment ces rencontres fugaces nourrissent sa poésie. « Je me prends à rêver, désir et sensation. Voilà mon apport à l'art. Chose à peine entrevue, visage ou profil, quelques vagues souvenirs d'amour inachevé. Je m'abandonne à lui. Il sait reconstituer la figure du beau. En complétant la vie presque insensiblement, en reliant des impressions, en rapprochant les jours.
Pour lui, ce qui vaut, c'est l'instant. Voilà ce qui est pour Cavafi. Vivre l'instant. L'éternité, c'est l'instant. Mais il n'y a pas de paradis. Ou alors, si vous voulez, le paradis, c'est cet instant-ci. En ce moment, c'est le paradis. Ou jamais.
Dimitri Analis.
Donc, Cavafi n'a pas le sens du tout des péchés, effectivement, mais une grande soif des sens. Une grande soif du corps, une grande soif de la présence des corps, une grande soif aussi de l'éternité. L'éternité sur le corps. Un corps jeune peut être une éternité. Une caresse peut être une éternité.
Découvrons donc quelques-unes de ces scènes capturées par l'œil du poète. Dans ses écrits de jeunesse, souvenez-vous, Alexandrie était la ville maudite, celle qui retenait Cavafis prisonnier. Mais au fil des années, la ville natale cesse d'être un symbole d'angoisse. Elle devient le théâtre des émois, des rencontres furtives et des amours cachés. Le poète pose le décor. Une rue, un commerce, un café. Et soudain, une beauté inattendue surgit qui transfigure le quotidien. Voici pour commencer un poème écrit en 1915, à l'entrée du café. Quelques mots prononcés près de moi attirèrent mon attention vers l'entrée du café. Et je vis la beauté de ce corps qu'Eros lui-même, au plus haut de son expérience, semblait avoir créé, modelant à plaisir la symétrie de ses membres, l'érigeant sculpturale à l'égal d'une statue, modelant le visage avec délicatesse et laissant du bout de ses doigts une touche d'émotion sur le front, dans les yeux et sur les lèvres. Restons avec Cavafis sur le seuil du café, observons avec lui les passants. Nous sommes en pleine rue, titre de ce poème de 1916. L'attention du poète soudain est attirée par un jeune homme dont il perce facilement le secret. Son visage sympathique, juste un peu pâle, ses yeux marrons, légèrement cernés, 25 ans mais en paraissant plutôt 20, avec quelque chose d'artiste dans la mise, un rien dans la nuance de la cravate, la forme du col, il déambule au hasard de la rue, comme ébloui encore par le plaisir défendu, ce plaisir entre tous défendu qu'il vient de connaître. Un an plus tard, Cavafis semble reconstituer les heures qui précèdent cette scène. Le poète nous donne à voir le trouble qui s'empare de deux jeunes gens dans le décor banal de la rue. Voici donc la vitrine du bureau de tabac, un poème de 1917. Ils étaient là près de la vitrine très éclairée d'un bureau de tabac parmi beaucoup d'autres. Leurs regards se croisèrent par hasard, et le désir inavouable de leur chair s'y exprima gauchement, avec gêne, puis quelques pas hésitants sur le trottoir, jusqu'à ce qu'ils échangent un sourire, un léger signe. Alors ce fut la voiture bien fermée, le rapprochement passionné des corps, l'union des mains, l'union des lèvres. Poursuivons avec Leur origine, un poème de 1921. Cette fois, nous sommes juste après la scène d'amour. Leur plaisir coupable vient de connaître son assouvissement. Ils se sont levés du lit et s'habillent à la hâte, sans parler. Ils sortent de la maison l'un après l'autre, furtivement, et comme ils marchent avec une certaine inquiétude dans la rue, on dirait qu'ils redoutent que quelque chose sur eux ne trahisse à quel genre d'amour ils viennent de céder. Mais la vie de l'artiste n'a eu qu'à y gagner. Demain, après-demain ou des années plus tard, s'écriront les poèmes brûlants dont l'origine était ici. 2 ans plus tard, que sont devenus ces amants, contraints de vivre leur amour en secret? On peut lire les fragments de Cavafis comme les bribes d'un seul et même récit. Le poème « Désarroi », écrit en 1923, nous raconterait alors la suite de l'histoire. Chez l'un des deux amoureux, la honte l'a emporté sur l'amour. Resté seul, son amant ne parvient pas à oublier. Cette fois, il l'a vraiment perdu. Et le voici qui cherche. Sur les lèvres de chaque partenaire de rencontre, ses lèvres à lui. Dans l'étreinte avec chaque partenaire de rencontre, il cherche à se convaincre qu'il s'agit de son ami, qu'il s'abandonne à lui. Il l'a vraiment perdu, comme s'il n'existait plus. Parce que lui, à l'entendre, il voulait se sauver de cette infamie, de cette volupté de la honte. Il était encore temps, ce sont ses mots, de se sauver. Il l'a vraiment perdu, comme s'il n'existait plus. Par l'imagination, l'égarement des sens, sur les lèvres des autres, ce sont ses lèvres qu'il recherche. Il essaie de sentir à nouveau son amour. Ce couple déchiré par le poids des interdits, notre poète en fait le symbole d'une société bornée. L'œuvre et la vie de Cavafis font parfois le grand écart. Dans certains de ses poèmes, le petit fonctionnaire plein de zèle n'hésite pas à critiquer ouvertement les règles instituées. 20 ans avant Désarroi et cette séparation forcée, Cavafis appelait déjà à la désobéissance dans un poème intitulé « Force d'âme ». Découvrons donc ce court texte de 1903 que le poète n'avait pas rendu public de son vivant. « Qui veut fortifier son âme doit éloigner de lui toute idée de soumission et de respect. Quant aux lois, il en gardera quelques-unes, mais la plupart du temps il enfreindra règles et usages et s'écartera de la bienséance convenue et stérile. L'expérience du plaisir lui apprendra beaucoup. Il ne faut surtout pas qu'il ait peur de détruire. La moitié de la maison devra être abattue. Ainsi grandira-t-il en sagesse et en vertu. » Cette liberté qu'il nous invite à saisir, voyons maintenant comment le poète s'en empare lui-même. Les poèmes de jeunesse soulignaient l'enfermement et l'absence d'horizon, mais Cavafis s'affranchit bientôt de tous les garde-fous. En 1903, il compose ce court texte au titre éloquent « Je suis parti ». Je n'ai pas voulu m'attacher, j'ai tout donné de moi, puis je suis parti. Vers des jouissances qui se sont avérées à demi réelles. En même temps que les folles chimères de mon cerveau, je suis parti dans la nuit illuminée et j'ai bu des vins âpres, comme savent en boire les hommes de plaisir. Restons dans cette nuit illuminée et laissons-nous gagner par l'ivresse du poète. Avec « Une nuit », poème de 1915, Cavafis délaisse son rôle de témoin pour se mettre en scène dans l'acte d'amour. Et c'est la beauté qui tout d'un coup surgit du décor le plus misérable. La chambre était pauvre et vulgaire, cachée au-dessus de la taverne louche. Par la fenêtre, on apercevait la ruelle, étroite et sordide. D'en bas montaient les voix de quelques ouvriers qui jouaient aux cartes et qui s'amusaient. Et là, sur l'humble lit plébéien, j'ai possédé le corps de l'amour, j'ai possédé les lèvres, voluptueuses et rouges de l'ivresse, rouges d'une telle ivresse qu'en ce moment même où j'écris, après tant d'années. Dans la solitude de ma maison, j'en suis de nouveau enivré. Découvrons un autre souvenir qui lui aussi a résisté aux années. Voici le dernier poème rendu public par Cavafis en 1932. Un an avant sa mort, le poète voyage à rebours dans le temps pour réveiller, c'est le titre de ce texte, les jours de 1908. Si cet épisode ne possède pas l'intensité charnelle du précédent, Cavafis poursuit le même projet, rendre hommage au jeune corps plein de vie dont la beauté éclipse la misère. Cette année-là, il s'était retrouvé sans travail. et il ne vivait guère que grâce aux cartes, aux tric-trac et à des emprunts. Une place à 3 livres par mois lui avait bien été offerte dans une petite papeterie. Mais il l'avait refusée sans la moindre hésitation. Cela n'allait pas, ce n'était pas un salaire pour un jeune homme relativement instruit comme lui et âgé de 25 ans. Il pouvait gagner jusqu'à 2 ou 3 shillings par jour. Aux cartes et aux tric-trac, comment voulez-vous qu'il s'en sorte? Le pauvre garçon dans les cafés de son milieu, les bistrots populaires, même en jouant intelligemment, en choisissant des partenaires idiots. Quant aux emprunts, il ne fallait pas trop compter là-dessus. À peine s'il atteignait un thaler, devant le plus souvent se contenter de la moitié quand ce n'était pas d'un shilling. Pendant une semaine, quelquefois plus, dès qu'il avait l'occasion d'échapper à la terrible veille, pour se rafraîchir, il allait se baigner tôt le matin. Ses habits étaient dans un piteux état. Il mettait toujours le même costume, un costume couleur cannelle, complètement fané. Ah, ces jours de l'été 1908, où avec élégance s'est effacé de votre vue le costume fané couleur cannelle. Votre vue n'a gardé que lui. À l'instant où il les retirait, où il les arrachait de son corps, les habits indignes et les sous-vêtements rapiécés, et il était là, nu, impeccablement beau, une merveille. Les cheveux dépeignés, tout ébouriffés, les membres légèrement hâlés à cause de leur nudité matinale au bain et sur la plage. Mais s'il célèbre les mouvantes beautés de la jeunesse et la vitalité des corps, Cavafis est lui-même rattrapé par le temps. Par-delà la sensualité, sa poésie dit aussi la perte et la mélancolie. Bien souvent, Cavafis exprime dans un même mouvement le désir et la disparition. Et le désir est sans doute d'autant plus intense qu'il est sublimé par le temps. Goûtons par exemple à la douce nostalgie du poème « Le soir venu », écrit en 1917. De toute façon, cela ne pouvait pas durer. L'expérience des années me le prouve. Pourtant, ce fut un peu rapidement que le destin vint y mettre un terme. La belle vie ne dura pas. Mais que les parfums étaient enivrants. Quelle douceur avait le lit où nous nous retrouvions. À quel plaisir nos corps se sont-ils livrés. Un lointain écho de ces jours de plaisir, un écho de ces jours m'est revenu tout à l'heure. Quelque chose de l'ardeur mutuelle de notre jeunesse. Au point qu'entre mes mains, j'ai repris une lettre. Et je l'ai lue et relue jusqu'à ce qu'on y voit plus clair. Et je suis sorti mélancoliquement sur le balcon. Je suis sorti me changer des idées en regardant au moins un peu de cette ville bien aimée. Un peu de la foule des rues et des magasins. Un an après ce poème, Cavafis nous offre une nouvelle variation de la fuite du temps. Restons dans la pénombre de fin de journée, propice à la mélancolie, et découvrons « Depuis 9 heures », un poème de 1918. Minuit et demi, l'heure a passé vite. Depuis qu'à 9 heures, j'ai allumé la lampe et suis venu m'asseoir ici. Je suis resté sans lire et sans parler. À qui aurais-je pu parler? Moi qui vis seul dans cette maison. Le fantôme de ma jeunesse, depuis qu'à 9 heures j'ai allumé la lampe, est venu me trouver et me remettre en mémoire le parfum des chambres fermées et le plaisir passé, un plaisir d'une telle audace. De même m'a-t-il remis sous les yeux des rues qu'on ne pourrait pas reconnaître aujourd'hui, des rendez-vous très fréquentés qui n'existent plus, et des théâtres et des cafés qui ont fait leur temps. Le fantôme de ma jeunesse est venu m'apporter aussi sa part de chagrin. Deuil de famille, séparation, opinion des proches, volonté des morts qui comptent pour si peu. Minuit et demi, comme l'heure a passé. Minuit et demi, comme les années ont passé.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Αρκετό. Για να σε πλάσω, να μη σε χάσω, ήσουν ουρανός στα μάτια μου αγνός. Σαν φως, σαν δάκρυ, σαν πρώτη αγάπη. Σε δω, Μόνο δυο άδειες λέξεις χωρίς ουσία βρήκα να πω. Χρόνια που είχες όνειρο να 'ρθεις, σαν μια παλιά ταινία που έφθυρε ο καιρό. Που μοιάζουν οι γιορτές χωρίς εσένα, μακριά από σένα, φίλος ή εχθρός, δεν ξέρω ποιο απ' τα δυο να ακολουθήσω, να σε κρατήσω σαν πρώτο φως. Ήσου αγνός, ήσουν ουρανός. Χρόνια που είχα απόψε να σε δω, μόνο δυο άδειες λέξεις χωρίς ουσία βρήκα να πω. Χρόνια που είχες όνειρο να 'ρθεις, σαν μια παλιά ταινία που έφυρε ο καιρός.
Années qui ont passé n'ont pas seulement affecté la ville. Cavafis lui-même, mémoire d'un monde disparu, a fait les frais du temps. En 1913, à 50 ans tout juste, il compose « Chose bien rare ». On y rencontre un vieux poète rongé par les années, qu'on ne peut pas s'empêcher bien sûr d'associer à l'auteur. C'est un vieil homme, épuisé et prostré, accablé par l'âge et par les excès. À pas traînants, il traverse la ruelle. Et pourtant, en rentrant chez lui pour y cacher la disgrâce de sa vieillesse, il se demande quelle peut être sa part encore de jeunesse. Aujourd'hui, des jeunes gens récitent ses vers. Dans leurs yeux ardents passent ses visions, leur cerveau sain, voluptueux, leur chair harmonieuse et ferme. C'est son idée du beau qui les fait tressaillir. Le vieil homme serait heureux, lui qui a réussi à fixer dans sa poésie les silhouettes du passé. Le voici à son tour ranimé par les mots d'un autre, ceux de l'écrivain Laurence Durel dans le Quatuor d'Alexandrie. Tout au long de cette œuvre magistrale publiée entre 1957 et 1960, Durel redonne vie à Cavafis 30 ans après sa mort. D'une part, l'auteur britannique cite dans son roman les poètes du grec d'Alexandrie, mais il y a plus. Sous sa plume, c'est Cavafis lui-même qui devient un personnage à part entière, une ombre familière qui veille sur la ville. Pour conclure ce parcours, voyons donc à quel point le souvenir du poète imprègne le Quatuor d'Alexandrie, extrait de la traduction de Roger Giroux pour les éditions Buchet-Chastel. Lumière filtrée par l'essence des citrons, poussière rougeâtre en suspension dans l'air, grisante poussière de briques, et l'odeur des trottoirs brûlants, arrosés et aussitôt secs. En été, une humidité venait de la mer et donnait au ciel une patine sourde, enveloppant toute chose d'un manteau visqueux. Puis en automne, l'air sec et vibrant, une électricité statique et âcre qui enflamme la peau sous l'étoffe légère des vêtements. La chair s'éveille, éprouve les barreaux de sa prison. Une prostituée ivre flâne dans une ruelle obscure, semant des bribes de chansons comme des pétales de rose. Est-ce cela qu'entendit Antoine ? Ces accords flous d'une vaste symphonie enivrante et qui le poussa à se livrer corps et âme à la ville dont il s'était à jamais épris. Les jeunes corps, encore acides, commencent à rechercher une nudité complice Et dans ces petits cafés où Balthazar venait si souvent avec le vieux poète de la ville, les garçons énervés se mettent à jouer au tric-trac sous les lampes à pétrole. Ils ont du mal à respirer, et dans chaque baiser de l'été, ils reconnaissent le goût de la chaux vive. Je suis venu ici afin de rebâtir pierre par pierre cette ville dans ma tête, cette triste province que le vieillard voyait pleine des ruines sombres de sa vie.
Bien sûr, Alexandrie, c'est sa ville.
Dimitri Yanalis.
Cette ville, Alexandrie, est une ville double. C'est une ville réelle dans laquelle il vit. Il déambule, il se promène. C'est en même temps le promeneur, mais à travers le temps. C'est l'Alexandrie d'aujourd'hui. C'est l'Alexandrie des Ptolémées. C'est l'Alexandrie de l'époque romaine et surtout l'Alexandrie de l'époque hellénistique. C'est-à-dire une époque où toutes les cultures du monde et toutes les races du monde s'agglomèrent. Kavafi jouit de cette forme de décadence qui n'est pas une décadence pourrie. C'est une décadence, je dirais, presque superbe, une décadence merveilleuse à vivre, où il fait bon vivre dans cette décadence. Une décadence qui n'est pas une chute, une décadence qui est un temps qui s'allonge dans le temps, on pourrait dire dans le temps historique. Le temps, l'instant qui se dissout dans le temps historique. Donc il y a une double Alexandrie chez Kavafi. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vit dans le présent de l'Alexandrie. Il vit tous les temps simultanément.
Restons dans les rues d'Alexandrie et donnons le mot de la fin au poète de la ville. En 1911, Kavafi célébrait le voyage dans le superbe poème « Ithaque » qui a ouvert cette émission. Mais au fil des années, le poète a apprivoisé sa ville. Dans l'un de ses derniers poèmes, il dit finalement son bonheur d'avoir vécu au même endroit. C'est le titre de ses quelques vers. En réponse à Ithaque, quittons-nous donc sur cette odyssée immobile. Atmosphère de la maison, des cafés, du quartier, que j'ai sous les yeux et où je marche depuis des années. Je t'ai façonné dans la joie et dans les peines, avec tant d'événements, avec tant de choses. Et te voici pour moi devenu l'amour même.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Jean-Richard Dufour. Elle a été préparée par Estelle Gapp, Léla Kourousselikoua, Perrine Malinge et Claire Tesser. Et je tiens à remercier le prince Michel de Grèce qui m'a fait découvrir ce merveilleux poète. À la semaine prochaine. Bonne soirée.